on était à Marseille pour les dealers, on va y rester justement, règlement de compte entre dealers. Alors certains pensent que c'est très bien puisqu'ils s'éliminent entre eux. Hein. Oui. Voilà. Bon, ce qui est évidemment pas une solution, d'autant que bah, il y a souvent des victimes collatérales. Ouais. Ce qui est arrivé notamment dernièrement à Marseille avec une maman, je crois.
Et un monsieur aussi qui a malheureusement fait les frais.
Et là, pareil. Quelle solution? Quelle solution? Il y en a pas.
Bah si, il faut y aller quoi, il faut avoir les volontés, il faut mettre les moyens.
Les policiers, moi je les entends à Marseille, puisque j'en connais un, ils me disent bah oui, hein, on peut enlever un nid, mais il y en a un autre qui va apparaître à côté, et ainsi de suite quoi.
Non mais donc, bien sûr, c'est pas la BAC qu'il faut, hein, je veux dire, c'est de la grosse artillerie quoi, si on veut y aller, et c'est...
T'appelles la Légion.
T'appelles l'armée.
Ben ouais, et oui, c'est une guerre, hein. C'est une guerre qu'il faut mener, et c'est une guerre qui demanderait des appuis internationaux, quoi. Puisque là, les ramifications, elles sont mondiales.
Tu sais ce que ça fait vivre, ça,
mais
sur
bien sûr,
Marseille
et
toutes les grandes villes.
Mais c'est aussi pour ça que on laisse faire, parce que ça amène
une économie
parallèle très forte.
Très forte.
Et oui.
Dans ce cas-là,
c'est pour ça qu'on laisse faire.
Ben bien sûr.
Dans ce cas-là, les dommages collatéraux, ben c'est normal.
On achète la paix sociale.
Non.
Alors, il y en a.
Non,
oui, les dommages collatéraux, comme tu dis, c'est le monsieur et la dame, là, c'est vrai, c'est regrettable, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, ben.
Non, mais toi, tu relativises vachement.
Mais oui,
il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
C'est comme ce drame de l'infirmière qui a été assassinée, c'est un peu le même principe. On sait qu'on a des schizos qui sont dans la nature, on prend le risque, et puis après, il y a un risque de dégâts collatéraux.
Oui.
Voilà, cette pauvre dame-là.
C'est des balles perdues.
Voilà,
c'est ce qu'on appelle les balles perdues.
Elle y est pour rien, elle se fait assassiner.
Pourquoi ? Parce qu'elle avait une blouse blanche, tout simplement. Il avait été maltraité. C'est ce qu'il a expliqué.
Mais pourquoi aussi ? Parce qu'il y avait un problème de sécurisation de l'hôpital aussi, du CHU. Hein.
Oui, mais enfin, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible de savoir qu'aujourd'hui, tu es obligé de mettre des portiques, des machins pour rentrer dans un hôpital. Enfin, c'est quand même fou, ça.
Chaque malade, c'est pas possible.
Si tu vas dans un hôpital, c'est pour te faire soigner. Donc automatiquement, je sais pas, moi c'est quand même un truc, c'est aberrant. Si c'est bien le dernier endroit où je mettrais des policiers, c'est dans un hôpital.
Mais je dis pas qu'il faut mettre des policiers, mais
dans pas longtemps, il faudra mettre des policiers aussi chez les pompiers, parce que t'as vu comment ils se font agresser
caillassé,
aussi.
Ben oui.
C'est
ben
quand
oui.
même fou, quoi.
Ben dans
oui,
les
mais
écoles.
C'est là qu'il faut que la société, il y a une dérive de la société. Il faut reprendre. Alors est-ce qu'il faut serrer plus? Est-ce qu'il faut construire des prisons pour enfermer tout le monde? Je sais pas.
Et on en arrive à une autre violence.
Il faut arrêter le laisser faire.
Et on en arrive à une autre violence. Violence envers les hommes politiques. Voilà, le maire de Saint-Brévin, le pauvre, là, Saint-Brévin-les-Pins, la voiture a été brûlée, ça a brûlé une partie de sa maison, parce qu'il était favorable à l'ouverture d'un centre d'accueil pour migrants.
Favorable ou pas, parce que là aussi, ça n'a pas trop été dit, mais un maire qui est Saint-Brévin, lui, on ne lui a pas demandé son avis pour mettre le CADA sur son territoire.
Oui, oui.
Je me demande même s'il aurait eu le pouvoir, c'est l'État qui décide.
Bien sûr. Il n'a pas été accompagné.
Voilà, visiblement. Donc dans la mesure où on l'oblige à mettre en place un dispositif pareil, il faut qu'il soit accompagné, quoi. C'est pas possible.
Mais rappelez-vous l'exemple qu'il y avait eu à Talar, là, quand il y avait eu une maison de jeunes qui était.
Tout à fait,
ils ont fermé.
Ça a été une tollée. Il y a peu de temps, en Île-de-France, ils ont voulu, dans une commune périphérique, ils ont voulu mettre en place une prison, levée de boucliers aussi, alors que tout le monde en demande, mais chez les autres, quoi.
C'est le problème de notre pays, visiblement. Alors, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est le problème des Français, hein, en général. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont toujours pour, mais pas chez nous. Hein.
Mais pour tout.
Parce que ça va pour les éoliennes, ça va pour
nucléaires.
Les centrales nucléaires,
ouais, là,
ça va pour les plans de les barrages, oui, les plans de...
Les aérodromes, les élevages,
pour tout.
Si je peux me permettre, c'est quand même un peu différent.
De toute façon, si tu vas pas à Saint-Brévin, tu vas à côté, les gens ne seront pas d'accord. Il n'y a jamais personne qui est d'accord pour avoir un centre de migrants à côté de chez soi. Enfin, ne fais pas la moue, tu le sais bien.
Enfin, le CADA, il n'allait pas être positionné dans un lotissement.
Il était à côté de l'école en plus. Il était à côté de l'école. Il était à côté de l'école. Il était tellement près de l'école les migrants devaient passer par l'école pour aller et sortir. Donc c'est pour te dire visiblement, il y a des parents d'élèves qui ont eu peur.
Oui, mais il y a eu, vous savez très bien, des manifestations d'extrême droite.
Et d'extrême gauche? Non, pas d'extrême gauche, que d'extrême droite. Sur le coup, c'est que d'extrême droite.
Non, il ne faut pas dire la vérité aussi. Parce que autrement, on dit n'importe quoi.
Oui.
On n'est pas sérieux, quoi. Il faut rester sérieux. Donc sérieux, c'est qu'il y a eu quand même... Il y a une montée, aujourd'hui, il y a une montée d'extrême droite moi qui me préoccupe beaucoup, pas pour moi parce que moi je suis en fin de course, mais pour ceux qui arrivent, et ça, ça me préoccupe beaucoup, hein, parce que vous avez vu, tu n'as pas encore parlé, mais tu as peut-être prévu d'en parler, des manifestations d'extrême droite qui étaient autorisées, pas autorisées, tout le débat qu'il y a eu.
Oui, à Paris, voilà. Oui,
il y a quand même
eu
des choses qui font peur, hein, qui donnent vraiment
d'un autre côté,
beaucoup d'inquiétude.
C'est l'effet loupe aussi, tu vois, parce qu'ils étaient combien ? Ils étaient quoi ? 700 ? Voilà, ils étaient 700, ça représente Kitschi sur la population française, mais ça fait peur.
On est d'accord,
on est d'accord.
Je vais te titiller un petit peu, mais quand on regarde l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'on a plus de dérapages sur l'extrême gauche que sur l'extrême droite en ce moment.
Oui, parce
qu'ils tiennent à carreau.
Ils tiennent à carreau. Effectivement. Non, mais tu as raison.
Sauf que quand la présidente de l'Assemblée nationale a demandé à avoir un moment de concentration, je sais pas, par rapport à ce qui se passait à Saint-Brévin, et un soutien au maire de Saint-Brévin, tous les députés se sont levés de droite et de gauche,
oui, bien sûr,
extrême droite.
Ah bah oui. Ah bah ça, c'est normal, ils sont contre.
Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Ils sont contre.
Ça veut dire, mais moi,
c'est logique.
Quand on reprend la réforme des retraites, ils m'envoient des trucs là. Ils m'agressent.
La violence arrive.
Même dans le studio d'Alpe 1.
Quand on reparle de la réforme des retraites, je trouve que le comportement de LFI en ayant bloqué l'Assemblée nationale, moi, ça me laisse aussi sur ma faim.
C'est vrai,
tu vois, et c'est une forme de violence quelque part, parce que du coup, ben, il n'y a pas eu de débat.
C'est vrai que ça donne pas une belle image.
Je vous rappelle quand même que les syndicats unanimement avaient demandé ce que le débat sur le fameux article, je ne sais plus, le numéro 6, je crois, peu importe, sur le passage à 64 ans, soit aille au bout à l'Assemblée nationale. Donc il y a quand même un comportement des organisations syndicales qui est différencié par rapport à ce qui est certains comportements de députés de LFI que je ne partage pas.
Je vais conclure. Finalement, cette société est malade, elle est très violente, et c'est vrai qu'on n'a pas la solution et que ça serait bien d'en trouver une. Mais
le pompon, ça reste quand même Jean-Baptiste Trogneux, le fils de Jean-Alexandre Trogneux, donc le petit-neveu de Brigitte Trogneux, qui est l'épouse du président de la République, et qui lui s'est fait agresser. Pourquoi ? Parce qu'il est d'alliance avec Emmanuel Macron.
Par contre, là, il y a eu une prise de conscience unanime, d'après ce que j'ai lu, je peux me tromper, de toutes les sensibilités politiques.
Ah oui,
ou syndicales. Bon, donc...
Il y en a tous, à l'extrême gauche, je parle, hein. Je parle d'extrême gauche. Tous ont dit, oui, effectivement, c'est pas bien, c'est ça. Mais, à chaque fois, il y a eu le mais. Mais, la responsabilité, c'est quand même le gouvernement, la violence du gouvernement, etc. Ils disent toujours
ça. L'appareil, tu globalises.
Non, je globalise pas. Je ne fais que te dire.
Il y a aussi une chier de députés de gauche.
C'est une spécialité des hommes politiques
toi,
de toujours dire.
Toi, tu reprends le discours macroniste, c'est-à-dire quand vous parlez de la gauche et l'extrême gauche. Je dis que dans la gauche, c'est comme dans la droite, il y a l'extrême droite, la droite.
Le problème, c'est qu'il n'y a plus de gauche, alors il reste que l'extrême gauche.
Mais non,
on n'entend plus que celle-là. Quoi.
La gauche, elle est toujours présente. Je veux dire, il y a une gauche quand même démocratique, républicaine.
Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Hein.
Si, elle est là.
Mais elle est où
si,
mais elle est où?
Vous ne voulez pas la voir.
C'est pas LFI, hein.
Mais
c'est non, pas LFI.
Mais que ce soit les Verts, le Parti communiste ou le Parti socialiste, c'est pas l'extrême gauche. Mais c'est pas ça, l'extrême
gauche. Ils sont inexistants. Ils ont été bouffés par Mélenchon et toute sa clique. Ouais. Enfin, soyons objectifs.
Mais vous êtes aveuglé, là.
Mais non, on n'est pas aveuglé. Franchement.
Thierry, il anime une émission alors qu'il devrait être neutre, il prend parti.
Mais non, depuis le début, je ne prends.
Il est neutre.
Je ne prends absolument.
Il est pas suisse.
Je ne prends absolument pas parti. Je dis seulement la réalité.
Si tu prends parti.
Mais non.
Mais c'est, il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. C'est toi qui veux pas le voir, Jean-Claude. Mais c'est comme ça.
La différence, Jean-Claude est optimiste. toi, tu es réaliste parce que tu parles de la réalité et tu ne peux pas t'en extraire. Après, il y a le pessimiste, je ne sais pas où il est, mais il va venir. Mais pour le coup, c'est vrai, tu es un optimiste invétéré, tant mieux pour toi. Ouais. Mais pour le coup, ça ne règle pas les problèmes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le monde, il est imparfait. Il faut essayer d'essayer de corriger, mais déjà nous-mêmes, on doit faire des choses aussi.
Mais chacun doit balayer devant sa porte et faire tous les jours. Moi, j'ai une règle, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se la pique. Tous les jours, le soir, quand je me couche, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de positif aujourd'hui. Voilà. Et si tout le monde raisonnait comme ça...
C'est pas dormir la nuit,
Peut-être que si tout le monde se posait la question avant de se coucher, qu'est-ce que j'ai fait de positif ce matin ou dans la journée, peut-être que le bilan, voilà. C'est simple, la vie.
Ils vont avoir du mal à dormir, nos amis politiques.
Aujourd'hui,
qu'ils soient de droite ou de gauche.
Aujourd'hui, on est dans un système totalement individualiste où plus personne s'entend, plus personne s'écoute. Et ça, c'est tout à fait déplorable. Et moi, je le dénonce aussi bien ici que quand j'étais la semaine dernière dans une réunion régionale à la mutualité, je suis intervenu en leur disant le même discours. Arrêtez de me bassiner parce que vous avez les mêmes attitudes, vous reproduisez les mêmes attitudes dans vos organisations, c'est-à-dire la verticalité des décisions, alors qu'il faudrait la transversalité. Et ça, je supporte de moins en moins. C'est pour ça que je suis très à l'aise autour de ce micro, parce que je me questionne tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait de positif? Qu'est-ce que j'ai fait de négatif?
D'accord, mais donc, tu peux être aussi objectif en disant que, quand je te dis que LFI...
Et je t'ai répondu oui.
Mais non, tu me dis, tu prends...
Tu t'es agacé pas parce que tu as dit, il y a des mais chaque fois.
Mais à chaque fois, il y a toujours... Ils vont toujours trouver...
Je suis d'accord avec vous deux, si vous voulez, mais surtout, je pense qu'on devrait... condamner fermement, sans mais, sans rien.
Exactement.
On condamne.
Et aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà. Quand tu as un député qui a dérapé, que j'entends un mec de droite dire oui, mais non, il a dérapé, point barre. Voilà. Et pareil pour Mathilde Panot. Tu l'as vu cette semaine, Mathilde Panot?
Mais je ne suis pas tous à la trace, moi.
Non, puis on ne voudrait pas tomber dans le panneau non plus.
Ils font un peu ce qu'ils veulent. Moi, j'ai entendu, parce que moi, je suis de moins en moins les politiques, de plus en plus les syndicalistes, parce que finalement, je les trouve vachement plus unis, d'ailleurs. Ils sont déjà unis.
Ah bah, qui a remplacé...
Et Sophie Binet, l'autre jour.
Spécialiste du 8 mai aussi, elle.
Non, pas du tout.
Ah, si. Ah, bah alors, justement, sur l'affaire de Trogneux, elle a fait, oui, effectivement, c'est pas... Mais...
Non, elle a dénoncé.
Non. Ah ben je vais te retrouver.
Elle était sur France Inter.
Avec son mais à la fin.
On le regardera, on écoutera après l'émission. On passe à un autre sujet.
Ah, il n'y a pas que les urgences à parler aujourd'hui. Les violences, quand même, j'espère. Parce que là, on parle que de les violences.
C'est fini, l'émission est terminée.
C'est terrible. Hein. Il faut quand même parler de choses positives un peu. Parce
non, il
n'y
a rien. Y a rien.
Bah, si on les bassine, si on reprend les mêmes thèmes que BFM et CNews, on ne va pas marquer des points parce qu'on ne sera jamais à leur niveau. Alors moi, je pense que ça serait bien que dans nos émissions, on soit aussi positif. Tout ce qui se fait de positif dans ce département. Je peux vous dire qu'il y en a toute une liste de choses.
Alors
positives.
Ça n'intéresse pas les gens. Les gens sont intéressés par ce qui n'est pas du tout positif.
Alors continue.
Ça se saurait. Sinon, les gens, ils n'écouteraient pas la télé.
Jean-Claude a raison. C'est vrai qu'il y a des choses positives qui avancent petit à petit, qui avancent pas assez vite. Alors, je vais prendre un sujet qui me tient à cœur. L'itinéraire cycliste qui... Alors, moi, c'est jamais qu'un itinéraire, c'est un balisage, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, proprement dite. Enfin, bientôt une qui va de Gap à Tallard. Mais... pour te faire plaisir, je vois la bouteille à moitié pleine et je me dis, ça va dans le bon sens.
Absolument. Voilà. Et je pourrais te donner une liste de toutes choses qui vont dans le bon sens dans le département. Pourquoi ça va dans le bon sens dans le département? Parce que je pense qu'il y a des gens responsables, qu'ils soient de droite, du gauche, qui représentent le MEDEF, les salariés, peu importe. Ils vont essayer d'agir dans le bon sens.
Oui, voilà. c'est la décentralisation un petit peu des décisions. C'est qu'à un moment donné, au niveau départemental, et ben il faut quand même avoir l'intelligence de travailler ensemble pour faire avancer les dossiers de bien commun.
Il y a des dossiers qui avancent.
Ouais, heureusement.
Je ne veux pas en citer parce qu'on n'a plus le terme. C'est dommage, mais je peux vous dire qu'il y a des dossiers qui avancent. Il n'y a pas que la violence. Et dans le département des Hautes-Alpes, et Gap en particulier, moi j'y suis tous les jours, je vis dans ce département. Des actes violents, j'en ai pas vu beaucoup. Si j'en ai vu un en rentrant de Marseille l'autre jour, et j'ai vu qu'il y avait un article dans le Dauphiné ce matin, c'est parce qu'un gars, il faisait du vélo sur l'autoroute.
Ça, c'est champion du monde.
Il faisait du vélo sur l'autoroute et je suis passé au moment où il se faisait coffré par les deux gendarmes,
bah oui,
oui, la police qui était en train de lui mettre les menottes.
Alors,
c'est le seul acte de violence que j'ai vu.
Voilà, voilà, bon, alors on va parler
d'un autre. C'est l'acte, pardon, excuse-moi. L'acte de violence, c'était quoi? C'était d'y aller.
Non, c'était que le mec, il roulait sur l'autoroute et qui faisait n'importe quoi sur l'autoroute.
Ça aurait pu être violent, mais pour lui, je pense.
Ah ben oui, et pour le pauvre gars qui lui rentre dedans et qui va se retrouver à expliquer pourquoi il est rentré avec sa voiture sur un mec qui était en vélo sur l'autoroute, alors que c'est interdit.
Surtout s'il a pris une barrette il y a 15 jours.
Mais voilà, non mais je disais que ça c'est un exemple, mais c'est pour dire quand même, on n'est quand même pas entouré de violence. Il ne faut pas aussi qu'on noircisse trop le tableau, parce que franchement, on va donner le noir à tout le monde, quoi.
Bon, alors vas-y.
Donc, on peut parler aujourd'hui du dossier de réforme de l'immigration en France. Voilà un sujet intéressant, puisqu'on s'est aperçu, selon un sondage, que 70% des Français ne veulent plus d'immigration. Non, 70% des Français ne veulent plus d'immigration. Et on a appris aussi que le RN et le LR sont visiblement sur la même ligne. Hein, vous avez vu, Éric Ciotti a présenté le week-end dernier donc la ligne du LR, tellement proche du RN que Bardella a proposé au président du LR, justement, sa carte au RN. Les LR veulent la réforme, carrément, de la Constitution pour durcir la politique d'immigration en France. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, au fameux maire de Saint-Brévin. Tu disais, non, mais c'est parce que... Ouais, eh ben non, les Français, visiblement, ils n'ont pas envie d'avoir encore d'immigration chez nous.
On n'a pas fini d'en avoir. Parce qu'avec la crise climatique... de la migration qui vient des pays je sais pas si vous avez écouté hier il y avait un reportage dans les pays, le Soudan et ailleurs, c'est catastrophique. La crise climatique qui touche en premier ces pays là vont faire que les populations, elles n'auront pas d'autre solution que soit mourir sur place, soit partir dans d'autres pays. Alors comment on gère là? Alors on peut dire 70% sont contre immigration, d'accord, mais il va bien falloir qu'on prenne le problème à bras le corps, quoi.
Mais moi quand tu me parles comme ça, je te pose une question, comment tu vas faire pour intégrer effectivement des millions de migrants climatiques qui vont venir de toutes parts? Comment aujourd'hui tu vas faire sans avoir effectivement des soulèvements dans notre pays ou en Europe? Il y a un moment donné, il faut aller au fond des choses. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Pardon ?
C'est quoi le fond des choses ?
Le fond des choses, c'est justement à un moment donné, comment on fait pour accueillir l'ensemble de ces personnes, et on est tous d'accord pour pouvoir le faire, mais dans des conditions qui sont respectables pour tout le monde, aussi bien pour les gens du pays que pour ceux qui vont venir. Si on les accueille comme on les accueille aujourd'hui, et qui vont malheureusement ne pas être encadrés pour évoluer dans cette société, et est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les moyens d'avoir un développement économique qui nous permet d'intégrer la majeure partie de ces gens-là? Il y a un moment donné, moi, ça me gêne d'entendre il faut faire ci, il faut se préserver peut-être une place au paradis, peut-être. Mais physiquement, la réalité, c'est bien compliqué. Du reste, tous les pays, on va prendre le Danemark et d'autres pays, aujourd'hui, ils ont un taux de... Ils veulent plus d'immigrés parce que c'est en fait, on critique, malheureusement, on critique les Français mais d'autres pays d'être racistes. En fait, quand on écoute des spécialistes, ils disent non, c'est pas forcément le racisme. C'est le mécanisme social qui, à un moment donné, fait qu'on rejette effectivement l'immigration. Parce que derrière, on sait qu'il y aura, à un moment donné, des limites dans tous les domaines. Et c'est là-dessus, par contre... Comment on va faire pour essayer de maintenir, par exemple en Afrique, c'est quand même 50% du développement démographique qui va arriver, qui va venir d'Afrique. Deuxièmement, on va prendre l'Inde, c'est le pays le plus peuplé aujourd'hui, mais dans une précarité qu'on est loin d'imaginer.
Ah oui,
sur lesquelles effectivement toutes les grandes entreprises sont en train de s'orienter là-bas pour aller faire annexer des secteurs complets pour notre confort, hein, notamment dans tout ce qui est pharmaceutique et tout.
Oui, bien
sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on nous parle effectivement d'écologie, on nous parle d'égalité, on nous parle de plein de choses? J'en suis comme toi aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe réellement. Moi, j'avoue, même s'il y a des choses qui sont positives, et tant mieux, sans quoi on serait en révolution. Hein. C'est ce qui va se produire. Je vais faire une parenthèse. Les LFI, moi, je regrette qu'ils aient ce discours. C'est des révolutionnaires. Alors, pourtant, il y a des moments, ils ont sûrement des choses bien. Ils ont des choses à faire passer, à faire comprendre. Mais quand on les voit agir, moi, j'ai une révulsion. À un moment donné, chaque fois qu'ils essaient d'intervenir, ça me gêne. C'est dommage, c'est pas constructif. Je suis pas en train d'incriminer celui-là, c'est la méthodologie globale. Là par contre, oui, c'est une globalité, dans ce parti, c'est des révolutionnaires. Alors, Ouais, si les gens, les communs des mortels, comme tu disais, le français lambda, qui lui, même pas s'il a. Je parle pas de.
Moi, ce que je propose, c'est que la prochaine
du lendemain,
la prochaine fois, vous invitez.
Attends.
Non, mais ça semble.
Non, mais c'est la démocratie, ça.
On se polarise tous sur la LFI. Les filles, bon. Moi, la limite, les filles.
C'est l'opposition aujourd'hui.
Non, mais moi, je suis pas là pour défendre la LFI.
Non, mais c'est l'opposition aujourd'hui.
D'accord, mais faut les inviter. La prochaine fois, invite un représentant de LFI.
On en a eu.
Je connais un député.
On a eu Walter hier qui était invité.
Et ben voilà, tu peux l'inviter.
On les invite régulièrement. Hein.
Tu peux l'inviter au Coq à l'âne, comme ça, les collègues du Coq à l'âne pourront l'interviewer en direct. Il est député, il est à l'hémicycle. Vous pourrez lui poser des questions en direct, savoir. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'hémicycle. Moi, je ne suis pas à la trace.
Tu vois comme tout le monde.
Ouais, mais bon, ce qu'on veut bien me présenter.
Oh, arrête.
Pareil, à l'Assemblée nationale, par exemple. Et ça, c'est la droite, c'est les macronistes qui le disaient l'autre jour. On présente les choses comme s'il n'y avait jamais de loi votée par les députés où il n'y a que de la bagarre. Mais si, il y a des lois qui sont votées à l'unanimité. Il y a beaucoup de choses positives qui se font. Donc oui, moi, je suis là un peu pour rééquilibrer parce que ce discours que j'entends quand je vais boire mon café et que ça me supporte, je ne peux plus boire le café dans les bars parce que j'entends des discours à la con sans arrêt, je n'ai pas envie de les réentendre quand je suis au Coq à l'âne. Non, mais parce que je trouve ça
c'est sympa pour nous.
Voilà, non, c'est tout.
Moi, je vais revenir au sujet de l'immigration. C'est bien beau de dire, Jean-Claude, ah ben on va avoir de plus en plus d'immigration, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ?
Ce que disait
Michel.
On en a parlé à plusieurs reprises.
Il disait, comment on fait pour accueillir tout le monde et comment on va faire ? Parce que, je veux dire, si demain on supporte tous les, enfin pas tout, mais une grosse partie de l'immigration. Je veux dire, il va y avoir des minima sociaux à leur donner. Il va y avoir des choses à mettre en place.
Trouver des choses équilibrées.
Ouais, mais c'est compliqué. Et d'un autre côté, ce qu'il disait au début de son propos, au début d'émission, c'est que l'immigration, on en a besoin pour les basses besognes. Voilà. Parce que nous, aujourd'hui, dans certains corps de métier, on trouve plus
surtout
que des gens.
Agriculture.
Surtout en agriculture, mais pas que dans d'autres métiers, on trouve des gens, même dans le BTP.
Et vous avez vu que là, on essaye de les déplacer. Ils sont en ce moment, tous ceux qui sont sur Paris et la région parisienne, on essaie de les déplacer pour les faire venir, essayer de les faire sortir du cœur de Paris et surtout de la banlieue, hein, pour les faire venir dans les petits villages de France. Mais il y en a combien qui vont accepter de partir de Paris? Parce qu'il y en a beaucoup qui bossent aussi, hein, il ne faut pas oublier ça.
Des fois dans des situations assez précaires.
Il y en a beaucoup qui bossent.
Qui mériteraient d'être régularisés. Il y a un projet de loi qui est en préparation. Semble-t-il, là, ils sont en train de tous s'entrecuer. On a vu, tu as cité le LR qui a sorti un truc comme si ça a été écrit par le RN. C'est... Donc ça veut dire que ça, c'est en prévision de cette fameuse proposition de loi qui est retardée, c'est un projet de loi qui est retardé à l'automne. Bon, après, il n'y a peut-être pas tout à rejeter dans ce projet de loi. Peut-être qu'il faut regarder intelligemment les choses. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui travaillent, des migrants qui viennent de je ne sais pas d'où, qui travaillent, qui ne sont pas régularisés ou régularisables alors qu'ils travaillent ? Il faudrait peut-être regarder de près.
Ce n'est pas forcément tous des terroristes, les gens. Ce qu'il faudrait aussi regarder de près, c'est comment on peut, ces gens-là, les aider sur leur... dans leur pays, parce que c'est vraiment compliqué. Nous aujourd'hui, moi je suis stupéfait de voir tous les matins les comptes rendus de la guerre en Ukraine, et aujourd'hui j'ai l'impression que dans beaucoup de médias ou dans les journaux, on nous parle tout le temps d'armement, de réarmement, de ci, de là. On va balancer des milliards sur l'armement, alors que pour se doter de drones, parce qu'on n'en avait pas en France, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup de chars,
je suis d'accord.
Moi, ça m'inquiète. Ouais. On va balancer. Enfin, les États-Unis, tous les pays, y compris la Russie, y compris la Chine, ils vont tous balancer du pognon dans l'armement.
Parce qu'il y a l'avenir de la planète qui est en train de se jouer là. Il faut pas se leurrer, hein. Il y a l'avenir de la planète qui est en train de se jouer. Ce qui explique pourquoi ce déferlement d'armement militaire débarque partout. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer.
Je suis d'accord, mais...
Bien
sûr qu'il y a la peur, mais il y a aussi la peur en ce moment de la Chine et de l'Amérique, sur Taïwan, hein. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer aussi là. Hein. Et donc,
justement, ça se passe mal avec l'Ukraine et la Russie, on pourrait s'imaginer que ça se passerait mal du côté de Taïwan et ainsi de suite. Et ça pourrait.
Et dans ce cadre-là, c'est sûr que le réchauffement climatique et la migration liée au climat va passer en second lieu.
Hein. Ah oui, c'est sûr.
Parce que là, c'est pour le coup, c'est le troisième conflit mondial. Et on
va terminer avec une note positive.
C'est pas très positif. Franchement, moi je pars, j'étais très en forme quand je suis arrivé, mais là je pars que...
Écoute
merde. Non, il y a des trucs positifs.
Non, mais Jean-Claude, il va falloir reconstruire, ça c'est un bel avenir. Putain,
voilà.
Franchement, à mon âge, je suis trop vieux maintenant pour reconstruire quoi que ce soit, tu vois.
Mais plein d'expérience et de sagesse.
Vers quelle société on va, alors qu'on a tous des petits-enfants, des enfants.
Je voudrais terminer sur...
Positif.
Les jours fériés du mois de mai.
Oh putain, ça j'appelle. Ah, ça,
alors, il y en a trop, hein. C'est pas possible, c'est un mois compliqué pour les entreprises et le commerce. 11 jours fériés en France, vous le savez, dont 4 au mois de mai. Le 1er mai, le 8, le 18 et le lundi 29, avec les congés payés. Il faut savoir que nous sommes à 35 jours, hein, grosso modo, de jours non travaillés en France. On est quand même bien loin de l'Espagne, hein, 44. L'Espagne, 44. À l'inverse, c'est en Irlande et aux Pays-Bas où ils en ont moins, 29. Donc, on va dire qu'on est sur la moyenne haute, nous, en France, 35. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de jours fériés au mois de mai? Franchement, c'est un truc de fou.
C'est vrai que c'est trop. C'est tout concentré au mois de mai. Alors, moi, je dis, on a un mois passoir. J'appelle ça le mois passoir.
Non, mais alors, le mois passoir, c'est un mois de moins.
Et c'est terrible pour certaines entreprises.
Mais c'est vrai, c'est compliqué pour les entreprises. C'est vraiment compliqué, quoi. Je veux dire, notamment dans l'agroalimentaire, parce que les gens continuent de manger. On a des jours fériés. Alors tu crées le climat social et tu le dégrades dans les entreprises parce que tu refuses le cette année. Tout le monde voulait son pont.
Bah, évidemment.
Nous, le vendredi, il y a des gens et on a été obligé de travailler parce qu'il faut livrer à la boucherie, il faut boucher les gens. Mais c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faudrait quand même un petit peu allégé le mois de mai, parce que franchement...
Il y avait quelqu'un qui avait essayé de supprimer le 8 mai, vous l'avez rappelé, Valéry Giscard d'Estaing.
Dans les années 70, donc.
Il avait supprimé le 8 mai,
c'est Mitterrand qui l'a remis.
Il est revenu le 8 mai.
Mitterrand qui l'a remis.
Oui.
Peut-être,
c'est Mitterrand qui l'a remis.
Tu as raison.
Non, mais ça devient compliqué, après, le lundi de Pentecôte, qui devrait être travaillé, mais qui en fait...
Ah oui, maintenant, c'est fini. Voilà, ça a duré 2 ans, et puis maintenant, chacun...
Après, il y a le jeudi de l'Ascension.
Voilà. Je pense qu'il y en a trop, et c'est compliqué dans les entreprises.
En contrepartie, si on avait autour de la table un représentant du tourisme, par exemple le directeur de la dette qui serait là, il est déjà venu, on l'a invité, il te dira, mais quand même, il y a eu beaucoup de monde qui sont...
Les gens n'ont plus de sous.
Ils sont venus, moi je les ai vus sur les routes. Hein.
Puis c'est cher.
On nous dit que les Français n'ont plus d'argent, donc ils ont du mal à joindre les debout. Alors c'est pas pour partir en vacances ou en week-end.
Mais ils sont venus, là.
Comment ça se fait? Je ne comprends pas.
Parce qu'il y a encore que de l'argent, on ne peut pas croire. Là aussi, tu globalises.
Ah bon?
Tu as l'impression que plus les Français ont plus de sous, mais ils ont des sous.
Les Français ont des sous, c'est une note positive.
Il y a une partie des Français qui ont des sous, il n'y a aucun problème.
D'ailleurs, vous avez rempli votre déclaration d'impôt.
Bien sûr, c'est hier, je crois, la dernière...
La limite.
Il y en a qui vont être étonnés. Ils disent, putain, j'ai pas le rond, mais je suis riche.
Ah, c'est ça. Voilà. Absolument. Bon, et ben voilà, c'est sur ces bonnes notes qu'on se quitte.
On est très positif. Hein.
On se retrouve. Alors le mois prochain, ce sera du côté de Briançon
avec mes
cocalia Briançonnais. Allez, passez une belle journée. À la prochaine. Ciao les amis. Ciao.